Bienvenue sur 2024, le nouveau podcast de championne du monde qui part à la rencontre d'une athlète qui a toutes ses chances de médaille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 20 minutes de podcast tous les 24 du mois pour découvrir vos nouvelles sportives préférées dans des sports un peu moins médiatisés mais que vous allez adorer. Parce que tout le monde mérite la lumière et que vous serez trop fiers de les connaître. Dites bonjour à vos espoirs pour Paris 2024. Mon date du jour, c'est Mathilde Pétriot, gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. En une phrase, ces Jeux, c'est une première historique pour l'équipe et un grand coup de visibilité pour une discipline dans l'ombre depuis des années. Mathilde et le hockey, vous allez adorer. Salut Mathilde.
Salut.
Bienvenue dans 2024, le podcast des espoirs de Paris 2024. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
Ravie également.
Trop bien. Écoute, je suis trop contente qu'on puisse échanger et d'autant plus que tu fais une discipline qui est vraiment peu mise en avant. Je me permets de le dire, c'est une réalité. Tu pratiques le hockey sur gazon.
Ouais, tout à fait. Hockey sur gazon, donc qui est une discipline olympique.
Tout à fait. Pour ceux qui l'ignorent, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas que le hockey sur gazon est au jeu.
En effet, on n'était pas qualifiés avec les équipes de France sur les dernières éditions, donc forcément, ça a moins été mis en avant.
Et donc là, le bonheur d'avoir les Jeux en France et à Paris, c'est que vous êtes automatiquement qualifié cette année.
Alors, pas automatiquement qualifié. On n'a pas eu de ticket gratuit. On a dû travailler dur pour ça. On a dû justifier d'une amélioration et d'un niveau, en fait, au niveau de la Fédération internationale. Donc, on nous a demandé d'être une équipe compétitive. C'est une règle qui a été imposée après les Jeux de Rio, il me semble. Mm-hmm. Parce qu'avant cela, tous les pays hôtes étaient qualifiés d'office.
Ouais.
Et donc là, pour assurer une compétitivité et pour montrer, en fait, qu'on est légitime à participer aux Jeux Olympiques, qui est une compétition qui accueille seulement 12 équipes, donc c'est assez élitiste. On va dire. Mm-hmm. Et on a dû montrer que sportivement, on pouvait faire quelque chose aux Jeux Olympiques.
Oui, ce qui semble logique, parce que si vous êtes 50e au ranking et que on vous qualifie d'office, c'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu.
Exactement.
Pas forcément juste pour les autres équipes. Et donc, du coup, ça s'est passé comment, se prouver, montrer que vous aviez le niveau?
Ouais, ça a été un process qualificatif assez long. Ça a été d'abord définir les règles avec les fédérations internationales. Initialement, la règle était qu'il fallait être dans le top 20 mondial. Néanmoins, le ranking, nous, à l'international, c'est assez compliqué, en fait, d'accéder au top 10, au top 15, dans la mesure où il y a des compétitions où tu gagnes des points, d'autres où tu en gagnes beaucoup moins. C'est une histoire de coefficient.
D'accord.
Et nous, on a été 32e mondial à une période, donc assez loin de ce top 20, ce qui rendait la chose peu réaliste. On a réussi à négocier avec le fait qu'il y a eu le Covid aussi, donc une suspension de certaines compétitions, un top 25.
D'accord.
Et donc, sportivement, on a réussi à faire des bonnes perfs. On a fini vice-championne d'Europe en Coupe d'Europe B en 2021. Et donc, ce qui nous a permis d'accéder à cette 25e place, donc une qualification officielle à partir justement donc, de l'été 2021.
D'accord. Bah, bravo.
Merci.
Première expérience, tu l'as dit aussi, c'est la première fois que votre équipe, hommes et femmes, il me semble d'ailleurs, sera qualifiée pour les Jeux, enfin, vont faire des Jeux.
Oui, tout à fait. Première fois pour les deux collectifs.
Trop bien. Bon, revenons un tout petit peu à ton sport aussi avant de partir là-dedans. On y reviendra bien évidemment. Donc, tu pratiques le hockey sur gazon, qui peut paraître comme ça une discipline peut-être pas forcément facilement accessible. Comment est-ce que tu as commencé le hockey ?
Et j'ai commencé en Normandie, dans un petit club qui s'appelle le Hockey Club Cauchois, près de chez mes parents. Le hockey, c'est un sport qui est principalement représenté dans le nord de la France et dans la région parisienne. Après, il y a des clubs un petit peu partout en France. Et c'est vraiment à travers donc une initiation à l'école que mon frère avait faite. Et derrière, j'ai pu découvrir ce sport qui est assez peu connu, mais qui, pour le coup, dans la ville où j'ai grandi, est très engagé. Et il y a beaucoup de sensibilisation et d'aspects éducatifs au niveau des écoles sur ce sport.
D'accord. Et donc, tu as fait une initiation et ça a été le coup de foudre ou parce que ça peut paraître un peu particulier pour des enfants. Alors, je ne sais pas quel âge tu avais quand tu as commencé, d'ailleurs.
Assez tard, j'avais 9-10 ans, je crois.
D'accord. Oh, c'est pas si tard.
Oui, c'est vrai.
C'est tard, j'allais dire, tu allais me dire 18 ans ou quelque chose comme ça.
Non, quand même 10 ans. Oui, tout à fait.
Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de commencer ce sport-là? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce sport?
Eh bien, en fait, j'ai fait beaucoup de sport avant de commencer le hockey et j'avais du mal, je pense, à trouver ma place, à trouver le sport qui me correspondait. J'ai fait des sports individuels, des sports collectifs, mais j'ai fait du football, par exemple, mais j'étais dans une équipe mixte avec principalement que des garçons, donc il n'y avait pas cet esprit familial ou d'équipe que je pouvais retrouver. Les sports individuels, ça ne me correspondait pas non plus. Et le hockey, j'ai aimé parce que c'était un club, enfin, c'est toujours un club qui est très familial, donc avec lesquels, avec mes coéquipières, j'ai pu créer du lien assez rapidement. J'ai aussi apprécié la spécificité de ce sport. C'est un sport qui est assez particulier. Il faut apprendre à maîtriser la balle avec une crosse. Il faut être coordonné. Il y a un aspect physique. Et j'ai découvert le poste de gardien de but parce que je suis gardienne de but. Et c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher et qui m'a plu dans ce sport.
Est-ce qu'on peut revenir aussi un petit peu, parce que c'est aussi le principe de ce format-là, sur ta discipline et comment ça se passe en fait ? Concrètement, quelles sont les règles dans le hockey sur gazon ?
Ouais, le hockey sur gazon, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce que c'est et comment ça se passe. Alors, c'est sur un terrain en gazon synthétique, donc de la fausse herbe, à peu près de la taille d'un terrain de foot. Et niveau composition, c'est comme du foot en fait. C'est du 11 contre 11, 10 joueurs de champ, un gardien. Moi, je suis gardienne, donc je suis équipée comme au hockey sur glace. Et sinon, les joueurs vont juste avoir ce qui s'appelle une crosse. Donc, c'est une sorte de grand bâton en carbone avec laquelle on va jouer. Donc, on court et on se fait des passes avec une balle qui est aussi dure qu'une balle de golf, mais à peu près la taille d'une balle de tennis. Donc, c'est une balle qui est assez dure. Il faut coordonner, dribbler avec la crosse. Et donc, après, il y a ce principe de l'équipe qui met le plus de buts a gagné. Donc, moi, je suis gardienne. Mon objectif, c'est d'en arrêter. Et voilà, et c'est un sport qui est à la fois, donc je le disais, très technique, avec cette notion de dribble, où il faut être coordonné, très physique aussi, où on a des changements en illimité, pas comme au foot. Donc en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment des changements toutes les 3-5 minutes. Donc ça, il y a une intensité très, très forte. Et après, c'est aussi un sport forcément collectif, tactique, où il y a énormément de spécificités. On retrouve beaucoup de schémas de jeu liés au foot. C'est assez intéressant.
Ouais. Est-ce que l'équipe de France a une spécificité, justement ? Un style de jeu particulier ?
Alors, dans le monde du hockey, on retrouve forcément différents styles. C'est-à-dire que les équipes argentines, espagnoles vont avoir, un peu comme au foot, hein, des styles de jeu à beaucoup dribbler, à être beaucoup plus dans l'expression technique. D'autres équipes, type les Hollandais, qui vont, eux, avoir un style de jeu beaucoup plus encadré, beaucoup plus puissant. Nous, je trouve qu'en équipe de France, on a une certaine fusion entre ces différents styles. On a un jeu qui est à la fois assez cadre, mais en même temps où on a une vraie liberté d'expression individuelle. On a des joueuses qui sont très techniques et d'autres qui sont à l'inverse vraiment sécures. Bon, c'est une vraie diversité et je pense que c'est ce qui fait une des forces de notre équipe aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment... On a réussi à construire notre style de jeu inspiré de pas mal de styles mondiaux, finalement.
Et toi, en tant que gardienne, est-ce qu'on peut avoir aussi son style en tant que gardienne ?
Oui, bien sûr. Alors, les gardiens... moi, je suis une petite gardienne. Enfin, petite, je fais 1m65. Il y a des gardiens qui sont beaucoup plus grands. Forcément, en termes de style de jeu, il y en a qui vont être beaucoup plus toniques, d'autres qui vont être assez grands et donc qui vont être peut-être plus souples. Moi, je suis une gardienne, j'ai la chance d'être assez souple et d'avoir aussi pas mal d'agressivité sur la balle. Du fait de ma petite taille, on m'a toujours dit il faut que tu sois très agressive avec la balle. Donc, voilà. Mais en effet, les styles de jeu dépendent forcément et un gardien hollandais ne va pas jouer comme un gardien espagnol ou comme le gardien australien, par exemple.
Tu as eu des modèles dans le hockey ?
J'ai eu des modèles, des figures de gardiennes qui m'ont inspirée, différentes. À l'époque, quand j'ai commencé l'équipe de France, il y avait la gardienne de la Belgique, parce qu'elle avait fait les Jeux de Londres, si je ne dis pas de bêtises, à l'âge de 16 ou 17 ans. Donc, je trouvais ça extrêmement inspirant.
Ouais.
Et donc, même en termes de style de jeu, j'ai une gardienne britannique que j'apprécie beaucoup et dont son style de jeu m'inspire beaucoup. Et voilà, donc je pense que j'ai pas eu qu'un seul modèle, une seule référence dans les différents gardiens. Je me suis beaucoup inspirée et j'ai puisé un peu dans les différents styles de gardiens que j'aimais bien. En termes de style de jeu, je dirais que après c'était plus des hommes finalement qui m'inspiraient, parce qu'on les voyait aussi plus, je pense. Donc comme ils étaient plus médiatisés, forcément, j'étais plus à regarder techniquement ce que les gardiens hommes proposaient.
Et en tant que joueuse, est-ce que je pose toujours cette question-là, mais est-ce qu'il y a une référence, une joueuse à connaître absolument dans ton sport?
Nous, en tant que référence dans le poste de gardienne de but, il y a la gardienne de la Grande-Bretagne anglaise, Maddie Hinch, qui a fini donc championne olympique aux Jeux de Londres et qui a un vrai palmarès, qui est une joueuse très complète et elle a été pendant des années nominée est élue meilleure gardienne du monde. Donc, okay. Elle a un vrai statut au niveau du hockey, dans le poste de gardien en tout cas. Donc, je dirais qu'en termes d'inspiration, quand j'étais jeune, c'est peut-être celle qui m'a le plus inspirée.
Tu les voyais, parce que c'est bête, hein, mais c'est vrai, on arrive, sauf quand on s'intéresse spécifiquement, ce qui est logique du coup, à sa discipline, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, le hockey, on ne vous voit pas, on ne sait pas où vous voir, donc on n'arrive pas aussi à identifier ces personnes, vous, dans l'équipe de France. Moi, en toute honnêteté, par exemple, je savais que je voulais faire un sujet sur le hockey, j'ai dû vraiment aller chercher pour trouver le nom des joueuses, le nom de la gardienne, enfin, c'est compliqué, je trouve, d'avoir accès.
Ouais, c'est un sport qui est peu médiatisé en France, mais au-delà de ça, peu développé aussi. Il y a peu de licenciés. Ça évolue positivement et c'est super.
Il y en a combien de licenciés? J'allais te poser la question.
Alors, j'ai pas le nombre exact, mais je pense qu'il y en a entre 10 000 et 15 000. D'accord. Il faudrait vérifier la source.
Garçon-fille.
Garçons-filles confondus. Mmh. Alors, ce qui est intéressant dans le hockey, c'est que c'est un sport mondialement féminin. En fait, c'est un sport qui est plus pratiqué par les femmes que par les hommes.
D'accord.
Et la fédération, nous, en France, il y a un vrai développement aussi au niveau du taux de féminisation, où l'idée, c'est presque d'arriver à une parité. Mais en tout cas, mondialement, c'est un sport qui est plus pratiqué par les femmes et qui est souvent plus représenté sur cet aspect-là.
Donc, c'est un peu une exception française, finalement. Tu disais que c'était plutôt féminin dans les autres pays et en France, c'est plutôt l'inverse.
Dans le monde, je dirais, par exemple, typiquement aux USA, c'est drôle, mais en fait, les garçons à l'université, ils vont beaucoup plus faire du football américain, ouais. Et les filles vont faire du hockey sur gazon. Donc, par exemple, les États-Unis, les femmes sont très bonnes, les garçons, c'est moins développé.
D'accord.
Donc, mondialement, il y a cet aspect-là. Après, il faudrait regarder, mais c'est pas non plus un sport que féminin.
Bien sûr.
Dans l'histoire, bien évidemment, ça l'était plus initialement. Mais après, en termes de développement sur la partie nous française du hockey sur gazon, il y a une vraie croissance. Ça, c'est super.
Et pour revenir un peu plus à toi et à ton intérêt pour ce sport aussi, qu'est-ce que tu aimes le plus toi aussi dans ce sport-là? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le hockey?
J'aime beaucoup. Je trouve que le hockey est un sport très complet. Je le disais, techniquement, tactiquement. En termes de rôle, de communication, moi, mon rôle de gardien aussi, c'est vrai que je peux être en tant que gardienne une clé dans un match. Il y a des matchs où je touche beaucoup moins de balles, mais j'aime beaucoup la spécificité de ce sport. Donc, c'est vraiment ces aspects-là. Après, comme c'est un sport qui est peu connu, c'est aussi un monde qui est très familial, finalement. On connaît tout le monde dans le monde du hockey français. Et donc, forcément, ça crée une petite famille, une communauté. Et donc, c'est aussi quelque chose de très riche.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous apporte énormément.
On le disait aussi tout à l'heure, donc c'est un sport qui n'est pas très connu, pas très médiatisé. Est-ce que tu arrives à vivre de ce sport-là?
Alors aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, je gagne beaucoup mieux ma vie et j'arrive presque, on va dire, à en vivre. J'ai la chance d'avoir mon club qui me rémunère. Alors nous, malheureusement, les clubs français aujourd'hui ne rémunèrent pas, donc je suis très vite partie à l'étranger. J'ai joué pendant 4 ans en Belgique et aujourd'hui, je joue en Espagne. Et mon club en Espagne me rémunère un petit peu moins de 800 euros à peu près par mois. Et à côté, j'ai la chance d'avoir des aides du ministère et de la fédération. Donc, le tout confondu permet d'avoir au moins un SMIC pour vivre. Et à côté, forcément, j'ai quelques partenaires avec les Jeux Olympiques, l'engouement médiatique. Donc ça, c'est vraiment une réelle chance. Donc oui, il y a eu une vraie évolution et aujourd'hui, je peux en vivre.
C'est une bonne chose, je trouve, de voir aussi que même dans des disciplines un peu plus confidentielles, on arrive à trouver des partenaires aussi.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un vrai déblocage hein, avec les Jeux de Paris, où il y a eu une prise de conscience aussi de la notion partage de valeurs entre le monde du sport, le monde de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment quelque chose de positif sur cet aspect-là.
Après, c'est une année un peu spécifique, je crois, parce que tu as un travail aussi à côté. Enfin, initialement, les années précédentes, tu travaillais aussi en parallèle.
Oui, tout à fait. J'ai toujours eu un double projet entre vie pro et vie de hockey. Ça a été important toujours d'avoir cet équilibre et nécessaire à l'époque. L'année olympique est une année année particulière. Forcément, après, on reviendra peut-être sur un modèle hybride où je vais reprendre le travail et continuer le hockey. Mais en tout cas, pour cette année olympique, afin de réussir les Jeux, je suis vraiment dans cet environnement et cet écosystème où j'arrive à me concentrer à 100% là-dessus.
Vous vous donnez les moyens, du coup, de vous concentrer sur cet objectif qui est Paris 2024.
Exactement. On dit toutes... Alors, la notion « mettre sa vie entre parenthèses » n'est pas forcément vraie, mais on est toutes dans cette bulle olympique où, justement, on est 100% engagé dans ce projet et il n'y a pas de dispersion.
Ouais, c'est vraiment une année particulière quand même. Ouais. Une année à part. Et justement, Paris 2024, qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement et le point culminant, le sommet un peu de ma carrière. Clairement, je suis en équipe de France depuis 2013.
Ouais. Donc ça fait plus de 10 ans.
C'est incroyable de voir le cheminement qu'on a fait au niveau du hockey français, mais aussi au niveau de cette équipe. Parce que ce qui est incroyable, c'est que dans l'équipe de France qu'on a aujourd'hui, il y a des joueuses avec lesquelles je joue depuis 10 ans presque. Ouais. Donc on se connaît
par cœur.
Par cœur, c'est le cas de le dire. On a grandi ensemble. C'est beau de voir que on est passé par toutes les étapes et qu'au début on rêvait des jeux et qu'en fait ce rêve est devenu une ambition, un objectif et aujourd'hui clairement une réalité avec voilà une échéance qui va arriver très très vite. Mais sportivement parlant, moi, ça a toujours été l'objectif de ma carrière. Ça a toujours été quelque chose... je me suis toujours dit, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques et je rêve des Jeux Olympiques. Et donc, c'est incroyable de se dire que dans 4 mois maintenant, on y est.
Quand tu as commencé le hockey, tu t'es dit que c'était un objectif qui était possible. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est en France, mais t'imaginais que ce serait réalisable ?
Quand j'ai commencé le hockey, pas forcément. Quand j'ai commencé le hockey, alors très vite, j'ai eu, on va dire, une sorte d'ascension parce que n'étant pas connu comme sport, j'ai très vite intégré les équipes de France jeunes. Mais on s'est inspiré de nos voisins, de nos voisines, les Belges, qui, elles, justement, avaient eu cette représentation aux Jeux de Londres. Et on s'est dit, mais en fait, elles l'ont fait. Pourquoi pas nous ? Le hockey belge a montré un vrai développement en termes de performance. Et on s'est dit, mais si elles peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Et il y a eu une vraie prise de conscience, un développement professionnel. La fédération a mis en place énormément de choses, investissement dans du matériel, plus de staff, etc. On est toutes parties à l'étranger, du coup, pour progresser et pour s'inspirer des Belges, parce qu'on est parties quasiment toutes en Belgique à l'époque. Et donc, à l'époque, on s'est autorisé de rêver. On s'est autorisé de rêver. Et puis, il y a eu cette candidature pour Paris 2024, où là, c'est devenu plus concret. Et donc, ça s'est vraiment fait progressivement. Et depuis 2021, depuis qu'on a... On était déjà dans un process de préparation pour les Jeux avant 2021. Mais depuis cette qualification officielle et le fait qu'on sache qu'on y va, il y a vraiment eu une prise de conscience collective incroyable.
Un changement de dimension ?
Un changement de dimension. C'est réellement ça. Aujourd'hui, on est des athlètes professionnels, on s'entraîne autant, si ce n'est même plus, que des joueurs de foot, je pense, parce que justement, on doit travailler encore plus pour montrer qu'on mérite encore plus d'être ici. Et on a vraiment, pour donner un référentiel, je vous disais, on était 32e mondial il y a 4 ans. Et il y a 2 semaines, on a fait match nul contre les 7e mondial. Donc en fait, on montre qu'on est 20e mondial actuellement. Et on montre qu'en fait, on peut prétendre clairement presque un top 10. Et on a cette ambition justement de développer le hockey français, de mettre en avant le fait que c'est aussi là notre place.
L'objectif, c'est top 10 sur les Jeux ?
On n'a pas défini de... Alors, les Jeux Olympiques, c'est 12 équipes, donc c'est 2 poules de 6.
D'accord.
Donc, et seuls les 4 premiers de la poule sortiront et feront des quarts de finale. Notre objectif, clairement, c'est de sortir de poule. Mm-hmm. On a conscience qu'on a 3 grosses équipes devant nous, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. Néanmoins, à côté, on a aussi le Japon, la Chine, qui sont des équipes donc, hors Europe, qu'on ne joue pas souvent, mais on s'autorise de rêver. On se dit qu'il est tout à fait possible quand on voit les performances, justement, je disais, qu'on fait contre l'Espagne. On sait qu'on peut faire quelque chose. Donc, clairement, notre objectif, ça va être de sortir de poule, de jouer un quart de finale aux Jeux Olympiques. Et après, je pense que tu te laisses porter. Mais tout est possible. Hein, c'est des formats... C'est aussi la beauté de notre sport. C'est-à-dire que c'est pas des... Forcément, il y a des équipes qui sont plus favorites que d'autres. Néanmoins, on sait que tout est possible. On a vu des équipes performer alors que personne ne s'y attendait. Donc, on n'a pas la prétention aujourd'hui de dire on va ramener une médaille aux Jeux Olympiques. Néanmoins, on sait qu'on va tout donner et que si ça se trouve, on va en ramener une médaille. On sait que tout est possible. Donc, on va donner les moyens et on va s'autoriser de rêver.
C'est la magie aussi des Jeux en France. C'est-à-dire que avec toute la liesse populaire que vous allez avoir derrière vous, on ne sait jamais aussi. Vous pouvez vous transcender, j'imagine, dans ces moments-là.
Oui, tout à fait. Je pense que le fait vraiment de se transcender, c'est le bon terme. En plus de ça... Je dis pas qu'on y va pas sans pression, mais étant donné qu'on est un peu les petits poussés dans cette compétition, exactement, on n'a rien à perdre. Mmh. On a tout à gagner. Et donc, ce statut-là nous autorise le droit, justement, de nous exprimer Et je pense qu'on a aussi toute une confiance collective, c'est-à-dire qu'on sait l'évolution qu'on a faite, les performances qu'on fait. Et donc, étant donné qu'on y croit toutes, je pense qu'on sait que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On est à domicile, on a la chance d'avoir déjà fait des matchs amicaux sur le terrain olympique. Donc c'est un terrain aussi qu'on connaît déjà un petit peu.
Yves du Manoir.
Exactement. Donc c'est vrai qu'avec tous les... C'est plein de petites choses, mais ces petites choses que Gagné en France a mis en place justement, tous ces petits dispositifs, le fait qu'on soit pays hôte, eh ben, le home advantage, ça existe un petit peu presque, on peut le dire. C'est une chance de justement avoir ces conditions de la perf. Je le disais, je pense que si les Jeux avaient été ailleurs, on n'aurait pas eu ces conditions-là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des structures d'entraînement incroyables, des choses mises à disposition justement pour qu'on soit performante.
Dans les meilleures conditions.
Ouais,
et justement, si tu devais donner des arguments auprès de nos auditeurs et auditrices de regarder absolument le hockey sur gazon, au jeu et ailleurs d'ailleurs, hein, de suivre, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je leur dirais que déjà, c'est l'occasion de découvrir un sport qui est à l'écran très intéressant parce qu'il y a de l'aspect technique et tactique comme au foot, mais il y a aussi beaucoup de dynamisme. C'est un sport qui bouge énormément, il y a une vraie ferveur. Après, sur l'aspect découverte, je pense que vraiment c'est intéressant. Cet aspect, voilà. Aujourd'hui, il y a plein de sports, des sports qui à l'époque n'étaient pas forcément médiatisés et qui aujourd'hui le sont beaucoup plus. Ça passe par des sportifs qui perfent, hein, évidemment. Mais je pense que justement, avoir un nouveau regard et découvrir le hockey sur gazon, ça peut être super intéressant.
Trop bien. Bah voilà, le message est passé. Donc tous et toutes devant le hockey sur gazon.
J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que le hockey sur gazon, en termes d'audience, c'est un des sports les plus regardés mondialement aux Jeux Olympiques.
D'accord.
En fait, mondialement, c'est énormément pratiqué. C'est vraiment nous, les Français, pour le coup, où en fait, comme on n'était pas représentés aux Jeux, oui. Il n'y avait pas cette visibilité au niveau des médias français. Mais néanmoins, à l'international, il y a une vraie notoriété du hockey sur gazon et c'est un des sports aux Jeux Olympiques qui est le plus regardé. Mmh.
Tu penses, ça, d'ailleurs, c'est une vraie question, mais comme les Jeux Olympiques, c'est la vitrine mondiale hein, tous les 4 ans et c'est assez incroyable aussi en termes d'audience, hein, forcément, c'est l'événement le plus regardé ouais. au monde, hein, l'événement sportif le plus regardé au monde, que le fait que la France n'ait jamais été aux Jeux et ne soit pas diffusée, parce qu'en fait, soyons honnêtes, hein, les télévisions, les diffuseurs officiels français diffusent quand il y a des Français qui passent aussi, et donc on n'a jamais vraiment vu finalement de hockey sur gazon à la télé, tu penses que ça, c'est ce qui a aussi ralenti la démocratisation de ce sport ?
Forcément, l'aspect médiatique joue un rôle énorme dans le développement. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte hein, sur le développement du hockey. Nous, c'est un sport qui est assez spécifique. Les terrains sont spécifiques, donc ça ne se pratique pas n'importe où. Néanmoins, il y a un vrai travail éducatif où il y a beaucoup d'écoles font pratiquer le hockey sur gazon dans leurs écoles, donc c'est hyper intéressant. Après, c'est les structures qui sont plus compliquées. Donc, il y a des clubs qui s'ouvrent de plus en plus en France, ça c'est bien. Forcément, en termes de médias, il y a eu des Coupes du Monde qui sont passés à la télé, etc. Mais là, le fait que ce soit mis en avant, que ça passe sur les Jeux Olympiques, il y a aussi une vraie attente de la fédération en termes de développement et de licenciés.
Ouais, oui, j'imagine. Bon, on arrive déjà à la fin des 20 minutes, malheureusement.
Passe vite.
C'est court. Ce format aussi, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant donc, des sportives dans des disciplines qu'on connaît peut-être un peu moins, ou pas d'ailleurs. Toi, si tu devais nous conseiller, en tout cas mettre en avant une sportive dans une autre discipline, par exemple, qu'est-ce que tu citerais ?
Ouh, compliqué comme question. Eh bien, je dirais, alors pas facile parce qu'il y a beaucoup de profils très intéressants, je dirais, je pense, Léonie Cambour, qui donc fait de l'heptathlon et du pentathlon.
Ouais.
Je trouve que c'est incroyable ce sport. De voir qu'on doit être en maîtrise et expert en fait dans 7 à plus de sports parfois, donc c'est vraiment maîtriser tellement de disciplines que je pense qu'il y a énormément de choses et de quoi s'inspirer dans ce genre de profil d'athlète.
Trop bien, c'est noté. Chaque fois, je mets mes petites notes pour les épisodes d'après. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mathilde. Merci pour ce temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les Jeux et l'après-jeu ?
Eh bien, je pense qu'on peut me souhaiter plein de réussite et de performer, de me sentir bien et d'arriver à mettre en avant et en lumière la beauté du hockey sur gazon.
Trop bien. Et l'après-jeu te fait peur ou pas du tout ?
L'après-jeu est quelque chose qui était très incertain, qui l'est beaucoup moins maintenant que je le prépare mentalement et en termes d'organisation. Donc, c'est quelque chose qui va être... particulier forcément parce que c'est l'ascension, les jeux, je le disais, donc derrière faut préparer la descente pour pas se casser la figure. Sportivement ça va être incroyable et émotionnellement aussi, donc il va falloir aussi penser à la suite et préparer la suite. Mais comme j'y pense et comme je suis bien entourée, l'incertitude est devenue plus une certitude, donc ça ne me fait plus peur.
Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Mathilde. Un gros merde, je le dis à chaque fois. Dans le dernier épisode, j'ai dit un gros, le M-word. Là, je vais le dire, un gros merde.
Je prends tout.
Pour ces jeux, à toute l'équipe. Et puis, écoute, on se revoit bientôt, je crois.
Ouais, avec plaisir.
Salut, Mathilde.
Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.